Le journal de la rédaction vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Offensive diplomatique en nombre contre le régime de Nicolas Maduro, l'aide humanitaire est toujours bloquée aux frontières. Nous rejoindrons dans un instant nos envoyés spéciaux à Cucuta en Colombie. Marche et défilé en hommage à Boris Nemtsov, assassiné il y a 4 ans au pied du Kremlin, correspondance de Moscou. Le dernier report en date de Theresa May qui promet cette fois un vote sur le Brexit avant le 12 mars. Colère et exaspération dans les rangs travaillistes. La jeunesse algérienne dans la rue pour la 3e journée consécutive. La 5e candidature à la présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika ne passe pas. Et il y a comme du dégagisme dans l'air en Algérie. Commentaire du chercheur Kader Abderrahim. Et puis nous nous rendrons également dans ce journal à Rome pour prendre la mesure de la déception des actes des victimes d'actes pédophiles par des membres du clergé. Les mots du pape ont claqué et maintenant, précision de Mathilde Imberti. L'Union européenne propose d'augmenter son aide humanitaire au Venezuela sous la direction des Nations unies, s'empresse d'ajouter la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les Nations unies appellent le régime au pouvoir à Caracas à ne pas recourir à des armes létales contre les manifestants. Avant-hier, la Russie accusait les États-Unis de se servir de l'aide humanitaire comme prétexte pour une action militaire. Hier, Washington menaçait de passer aux actes. Le président vénézuélien, lui, Nicolas Maduro, a rompu les relations diplomatiques avec la Colombie. Son adversaire Juan Guaido est attendu demain à Bogota pour un échange avec le président colombien Iván Duque. À la frontière colombienne, justement, à Cucuta, les opposants à Maduro ne désespèrent pas de parvenir à franchir le pont au volant des camions chargés de vivres et de médicaments. C'est un reportage de Benjamin Ely.
Alors on voit bien le camion pris pour cible hier, on voit encore aussi des fumées au loin, des médicaments, des aliments incendiés par le régime chaviste. C'est ce que nous disent les députés de l'opposition qui étaient présents sur ce pont. Tout ce qui manque au Venezuela, parti en fumée. Iván Duque, le président colombien, vient d'aller voir les dégâts. Il salue le rassemblement de Vénézuéliens devant lui.
On est avec vous, assure Iván Duque. Vous allez retrouver la liberté et le monde est à vos côtés.
Un homme là avec le drapeau vénézuélien sur les épaules. Hola, señor, venezolano.
Mi nombre es Carlos.
Carlo.
Somos la resistencia.
La résistance, c'est nous, dit Carlo. Il faut une intervention.
Ayer luchamos contra esta gente.
Hier, on a lutté contre ces gens en face. On s'est battu avec des pierres. Il y a eu une centaine de blessés de ce côté du pont. Ça, on ne va pas l'oublier. Bientôt, nous serons libres. Et ce que nous voulons, c'est une intervention internationale, militaire, car sinon, on va mourir.
Vamos a morir. Vamos a gritar todos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?
Reportage de Benjamin Ely et Jérémy Tuile. Le président chaviste a reçu aujourd'hui le chaleureux soutien de son voisin et homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, qui a lancé en plein bureau de vote « Nous votons pour notre constitution, pour l'Amérique latine et les Caraïbes, nous votons aussi pour le Venezuela ». Nous défendons le Venezuela car au Venezuela se joue la dignité du continent. Fin de citation. 8 millions de Cubains sont appelés ce dimanche à se prononcer par référendum sur la nouvelle constitution. Cuba et le Venezuela sont les deux régimes choyés par le président russe quand il n'annule pas d'un trait la dette cubaine, comme ce fut le cas en 2014. Vladimir Poutine prend sous son aile Nicolas Maduro, victime du prédateur américain, avide des richesses du sous-sol vénézuélien. Pas sûr que cette prévenance russe soit si désintéressée qu'il n'y paraît. Ces trois gouvernants ont d'ailleurs en commun une tolérance immodérée pour celles et ceux qui ne partagent pas leurs choix politiques. Il y a 4 ans, jour pour jour, Boris Nemtsov, figure de l'opposition, était assassiné au pied du Kremlin. Des milliers de moscovites ont défilé cet après-midi dans le centre-ville. Un défilé selon Ilya Yashin de l'opposition russe libérale qui, je cite, concerne le futur de ce pays que Poutine éloigne de son peuple. Fin de citation. La correspondance de Moscou de Léo Vidal-Giraud.
Ils étaient environ 10 000 personnes cet après-midi dans les rues de Moscou pour commémorer le 4e anniversaire de l'assassinat de Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, abattu le 27 février 2015 de plusieurs balles dans le dos. La marche était autorisée par les autorités, elle s'est déroulée dans le calme à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans plusieurs villes de province. À Moscou, on ne signale qu'une seule arrestation, mais c'est toutefois la lassitude et le découragement qui prédominent chez des manifestants toujours moins nombreux. L'opposition russe est plus faible que jamais et l'enquête officielle n'a toujours pas permis de retrouver les commanditaires de l'assassinat. Boris Nemtsov avait été ministre de l'énergie dans les années 1990, c'était à l'époque de Boris Eltsine. Puis après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il avait basculé dans l'opposition où il faisait partie du bloc des libéraux. Engagé contre la guerre en Ukraine, il s'apprêtait à publier un rapport sur la présence de troupes russes dans le Donbass lorsqu'il a été abattu au pied du Kremlin. Un mémorial improvisé a été installé à l'endroit de son assassinat. Des volontaires y montent la garde pour empêcher qu'il ne soit retiré, sans interruption, depuis maintenant 1459 jours, sans réel espoir d'obtenir justice, mais sans se résoudre non plus à rendre les armes.
Encore quelques centaines de manifestants à Alger, moins de monde qu'hier dans la capitale algérienne. Ces jeunes gens, qui ne se résolvent pas à voter une cinquième fois pour Abdelaziz Bouteflika, expriment leur colère en prenant appui sur les réseaux sociaux, hors de tout cadre politique ou syndical. Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb, est avec Victor Matet.
L'Algérie, elle aussi, s'est modernisée, a évolué, et les pratiques sociales et politiques ont elles aussi évolué. Et on voit aujourd'hui quelle est l'importance des réseaux sociaux dans la mobilisation politique pour contester le pouvoir en place. C'est la jeunesse et majoritairement effectivement des très jeunes gens qui sont concernés parce qu'ils ne voient aucune perspective et parce que malheureusement ce sont aussi les premiers qui tentent de trouver un avenir meilleur, notamment en Europe. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, l'Algérie est dans une impasse institutionnelle, mais elle également doit faire face à une grave crise sociale, notamment sur la question de l'emploi pour les jeunes. Je pense que les Algériens perçoivent comme une humiliation collective ce cinquième mandat de la part d'un homme qui est absent, qui est malade et qui ne peut plus paraître ni s'exprimer en public. Donc évidemment, les Algériens ont pris conscience qu'il était temps de réagir pour tenter de s'opposer à ce cinquième mandat.
Est-ce que l'on peut imaginer un mouvement social plus large dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ?
C'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit aujourd'hui. Ça dépendra évidemment de la poursuite ou non de cette protestation et de ces mobilisations, dont il faut rappeler qu'elles ont eu lieu dans tout le pays, c'est quand même extrêmement important, y compris dans des villes sahariennes qui sont traditionnellement plutôt acquises au régime en place et au FLN. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui dépasse largement le cadre traditionnel des mobilisations et des manifestations urbaines dans le nord du pays.
Et une marche des étudiants est programmée au 26 février partout en Algérie. En Grande-Bretagne, l'opposition travailliste ne décolère pas. La décision de la Première ministre de repousser une nouvelle fois un vote sur le Brexit à la Chambre des communes est, je cite, « le summum de l'irresponsabilité ». Fin de citation. Élodie Goulesque, Theresa May promet cette fois que ce vote aura lieu avant le 12 mars prochain.
Ça devient presque une routine pour Theresa May d'annoncer le report du Meaningful Vote, qui permettrait au gouvernement et au Parlement britannique de sceller le Brexit. La prochaine étape vers ce vote devait avoir lieu la semaine prochaine, avec un discours de Theresa May devant la Chambre des députés mardi, puis des amendements et votes le mercredi. Si le planning devrait rester le même, l'enjeu est moindre, puisque pour la troisième fois depuis le début de l'année, le vote sera donc reporté d'ici au 12 mars. Une annonce qui intervient dans un contexte tendu au sein même du gouvernement. Hier, trois ministres ont annoncé dans une lettre ouverte publié dans le Daily Mail qu'il serait prêt à aller contre Theresa May si le scénario de No Deal n'était pas clairement évincé. Ils se disent prêts à rejoindre les députés en faveur d'une extension de l'article 50 impliquant une sortie plus tardive de l'Union européenne. Une option qui semble séduire de plus en plus alors que la première ministre elle l'a répété encore une fois aujourd'hui, le Brexit aura bien lieu comme prévu le 29 mars prochain. Alors que le Parti travailliste accusait Theresa May il y a quelques semaines de vouloir jouer dangereusement une course contre la montre en faisant voter son deal le plus tard possible, la Première ministre prouve une fois de plus qu'elle reste sur ses positions. Opposée à un second référendum, opposée à une extension de l'article 50, en décalant une fois de plus ce vote, Theresa May semble rendre l'option d'un no deal de plus en plus probable.
Élodie Goulesque, à Londres. Cela fait 30 ans que les scandales d'abus sexuels salissent l'Église catholique dans le monde entier. L'Église, longtemps accusée de détourner le regard, voire de couvrir ces abus. Ces dernières années, le discours du Vatican a peu à peu évolué. Et après un sommet inédit de 3 jours sur le sujet, le pape François a insisté sur le mal que constituait la pédophilie, sans avancer beaucoup de mesures concrètes. À Rome, Mathilde Imberti.
C'est d'abord la présentation de la cause des abus qui fait bondir les associations de victimes. Le pape, dans son discours, évoque Satan et le mal pour condamner sans détour le fléau.
L'inhumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus scandaleuse dans l'Église. La personne consacrée, choisie par Dieu pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine ou sa propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan.
Ce discours ne convient absolument pas à l'association ECA Ending Clerical Abuse qui, durant tout le sommet, a multiplié à Rome les protestations pour faire entendre la douleur des victimes. Leur porte-parole, l'espagnol Miguel Hurtado, a été victime dans le scandale des maristes de Barcelone qui a éclaté en 2016.
El Papa Francisco Le pape François a tenté d'externaliser le problème en disant que c'est l'action du diable ou du mal qui agit. Non, ce sont les évêques, prélats et cardinaux qui, en suivant les directives du Vatican, ont couvert systématiquement des délits. Son discours manque de concret. Il ne parle pas de l'obligation de livrer les dossiers à la police au lieu de les détruire, comme l'a révélé hier le chef des évêques allemands. Il n'y a rien de concret.
Le Vatican se réunira dès demain pour étudier les suites concrètes dans le détail. Trois pistes nous ont été communiquées en dehors du discours du pape, plutôt général. La rédaction d'un vademécum qui sera envoyé aux évêques pour leur rappeler les procédures à suivre. Un autre texte spécifiquement pour le Vatican et la Curie. Et pour aider les pays les plus en retard sur le traitement des abus, le Vatican a l'idée d'envoyer des équipes d'experts sur place pour assister l'épiscopat. C'est trop peu aux yeux des victimes, mais les organisateurs de ce sommet inédit insistent sur le fait que désormais tout le monde a conscience que la lutte contre les abus doit être une vraie priorité. Reste aussi que l'Église ne s'était jamais livrée à une autocritique aussi vaste, impitoyable et transparente. Toutes les interventions étaient retransmises en direct, suivies de conférences de presse quotidiennes. On souligne parmi les organisateurs que cela en soi est déjà une révolution.
La journaliste et illustratrice kurde Zehra Dogan a été remise en liberté conditionnelle après plus de 2 ans d'emprisonnement pour propagande terroriste. Elle a vu le tort de réaliser un tableau de la ville de Nusaybin ravagée par les combats entre l'armée turque et la guérilla kurde. L'artiste Durbanski avait volé au secours de Zehra Dogan en lui consacrant une fresque murale géante à Manhattan, à New York. Des tombes profanées, des tags sur les boîtes à lettres, des croix gammées sur des portraits de Simone Veil, les lâches évocations antisémites se multiplient en France. Et la France ne fait pas exception en Europe, en témoigne le baromètre de l'Union européenne. L'Allemagne a en effet enregistré l'an dernier un bond de 10% des actes antisémites. Un artiste allemand mène d'ailleurs un combat pour la mémoire depuis 1992 à la demande de riverains. Il insère dans les trottoirs de la ville des pavés en laiton sur lesquels il inscrit la dernière adresse des victimes de la Shoah. Il y avait hier une cérémonie à Berlin à laquelle a assisté David Philippot.
Au marteau et burin, l'artiste Gunther Demnig décèle des pavés devant le numéro 83 de la Torstrasse. À la place, un pavé de laiton est fixé par du mortier. Il est gravé dessus. Ici vécut Eva Salinger, assassinée en mai 42 au camp d'extermination de Kelmno. C'était la grand-tante du français Joachim Salinger.
Pour le coup, comme elle est morte à Kelmno, dans un camion à gaz et que son corps a été brûlé par la suite, elle n'a pas de tombe. On pourrait dire que ça fait office aussi de cénotaphe, c'est-à-dire d'une pierre qui témoigne de sa présence au monde.
Bertha Neumann, Frieda Neumann, Johanna Freiberg.
Il aura fallu 5 ans de recherche à Joachim pour reconstituer l'histoire des habitants juifs de cet immeuble du centre de Berlin. Aidé par quelques bénévoles, un habitant de la rue, Bernd Meyer, a porté officiellement la demande.
Moi, je ne suis pas responsable pour ce qui s'est passé à l'époque. Mais je suis responsable de ce qui se passera aujourd'hui et dans le futur. À mon avis, c'est très important de garder la mémoire.
Ces pavés de la mémoire, il y en a 70 000 en Europe, mais moins d'une cinquantaine en France. Petra Fritsche est historienne.
Il y a plusieurs Français qui ont demandé à implanter ces pavés à Paris pour leurs proches, mais cela leur a toujours été refusé. Les Français tiennent souvent à préciser qu'ils ont leur propre culture de la mémoire et qu'un artiste allemand ne saurait venir pour célébrer cette mémoire.
Joachim Salinger veut obtenir rendez-vous ces prochaines semaines à la mairie de Paris pour tenter d'infléchir sa position.
Voilà, reportage de David Philippot. Le temps de demain lundi s'annonce sec et généralement bien ensoleillé sur l'ensemble du pays. Après la dissipation de quelques bancs de brume ou de brouillard. 18h14, cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.